Chapitre 11. Une famille française. Dans la gare de Calais, par un matin jaune et tout enveloppé d'un brouillard qui semblait avoir passé le détroit avec lui, Antonin Eudeline, à peine débarqué, achetait des journaux sur le quai du chemin de fer, des balles de journaux, moins pour lire que pour absorber sa pensée jusqu'à Paris. Tant de choses le tourmentaient en dehors des responsabilités d'un commerce si lourd à ses jeunes épaules. D'abord le tirage au sort dont la date approchait. « Veux-tu que je tire pour toi? J'ai toujours eu la main heureuse », lui écrivait son patron, Esprit Cornat, l'ancien de la Constituante, solide et vert à 82 ans, comme ses amis Schelcher, Jules Simon et tous les vieux adjis de 48. Mais Tonin s'y était refusé, préférant risquer sa chance personnelle et aussi tâcher de résoudre sur place certains problèmes que Sophie Kassagnosov lui avait si directement posés. Il savait maintenant que les éditeurs ne font pas souvent des avances sur l'œuvre d'un auteur inconnu. Alors d'où venaient tous ces fonds dont l'aîné disposait pour lui, pour les siens? Lui, deux métiers de mot-glace? Non, la fantastique imagination de cette Russe pouvait seule accepter des suppositions pareilles. Mais sans tomber à ce degré de bassesse, qui sait si Raymond n'avait pas eu recours à cette amie si riche et si bonne, cette femme de ministre dont il étalait un jour les toilettes somptueuses devant son jeune frère, avec ce cri de faubourg « Plus que ça de chic !» Ce jour-là, Antonin, toujours admiratif de son grand, s'était senti honteux, gêné, et par cette fêlure au respect fraternel, de mauvais soupçons s'étaient peu à peu glissés. Quoi de réel, il ne le saurait que par lui-même. Demain, pour cette adorable tantine que les lettres de Casta lui montraient toutes désemparées, follement éprise d'un homme qui ne pouvait pas l'épouser. Quel pouvait être cet homme? Comment Geneviève, sérieuse et douce, aux yeux candides, au sourire maternel, se serait-elle ainsi métamorphosée, surtout après le sentiment profond qu'elle avait eu pour le grand frère dans leur jeunesse? C'est donc vrai que les meilleures sont à ce point changeantes et qu'on ne saurait répondre d'une belle journée avant sa fin. Ah, il en fallait des journaux pour prendre la route en patience et s'empoussiérer le cerveau de politique et de faits divers. Comme Antonin passait sa monnaie à la marchande et se débarrassait de tous les pences qui lui restaient, la femme lui montra dans un groupe de voyageurs, debout et feuilletant des livres à son étalage, la barbe courte et le binocle de l'illustre romancier Herscher, dont le voyage en Angleterre défrayait les feuilles depuis 15 jours. « Vous connaissez ?» demandait le sourire de la marchande. Tonin fit oui de sa bonne figure de rouquin à la moustache et aux cheveux mal plantés et se rapprocha du groupe au milieu duquel l'homme célèbre parlait d'une voix de phoque, pesante et sourde, en agitant un livre non coupé qu'il venait de prendre à la devanture. Malgré la pluie en rafale fouettant les vitres du grand hall, les brouettes de bagages qui roulaient et cliquetaient sur l'asphalte, pas un mot de ce soliloque ne fut perdu pour Antonin. « Encore un !» disait Herscher. « Un livre nouveau, un auteur nouveau !» Du reste, c'est bien simple, en France maintenant, tout le monde écrit. D'une pièce ou d'un livre, tout le monde est auteur. Par exemple, personne ne lit plus. Les vieux, nous autres, nous relisons, essayant de retrouver notre jeunesse à des coins de chapitres, à des tournants de phrases. Les jeunes n'ouvrent que leurs propres livres, se bercent en les récitant, Bouddha hypnotisé, extasié. Et bons enfants, ces jeunes, je ne vous dis que ça. Ils viennent de fonder une revue, La Vorace, dont le premier numéro s'informe très sérieusement si tous les pâles sont occupés en Turquie d'Asie, et s'il n'y en aurait pas un de disponible à mon intention. » Dans le gros rire adulateur qui couvrit l'heureuse saillie de la Vorace, une voix grêle, hésitante, se fit jour. « Mais enfin, n'est-ce pas, il y en a qui ne sont ni fous ni méchants, il y en a même qui ont du talent parmi ces jeunes. »« Du talent, monsieur, » dit Herscher, se retournant vers le petit chapeau mou et la tenue quasi ouvrière de son interlocuteur, avec la déférence de l'homme connu qui appartient au public. Mais ils en ont tous du talent. Ce livre que je tiens, que je n'ai pas même ouvert, je suis sûr qu'il en déborde de talent, qu'il suit le génie. Mais qui le saura, puisque personne ne voudra le livre? La voix d'Antonin protestait, s'indignait. Et pourquoi ne voulait-on pas le lire, ce nouvel auteur? On le lisait encore en France, car enfin, n'est-ce pas, les livres de M. Herscher se vendaient à des 100 000 le chose du chose. L'illustre romancier reprit en riant dans sa barbe drue et grisonnante. On me vend, on me tire en effet à plus de 100 000. Mais, à côté des succès que certains livres ont en Angleterre, c'est un tirage enfantin. Parlez-moi des pays où il y a des 350 000 lecteurs. Oui, monsieur, 300, 400 milliers de gens qui lisent des romans et n'en écrivent pas. L'appel strident du départ ébranla les toitures vitrées, les portières des wagons claquèrent. On criait « Les voyageurs pour Paris !» Machinalement, Antonin, avant de s'éloigner de l'étalage, regarda le livre qu'Herscher, en s'en allant, rejetait avec précipitation sur la pile des nouveautés à la couverture fleurie. Le temps de voir le nom, le titre, d'étouffer un cri de surprise, de triomphe, Tonin sautait en wagon, emportant les deux seuls exemplaires qu'il y eut dans la gare de Calais, et même dans toute la ville, du roman nouveau de Raymond Eudeline, Une famille française, essai de roman Vériste, 4e édition. Qu'est-ce qu'il racontait donc, ce Herscher, qu'on ne lisait plus les jeunes auteurs? En voilà un livre, à peine mis en vente, qui atteignait déjà sa 4e édition. Que serait-ce dans 8 jours? Ah, si Tonin, au lieu de prendre une 3e, avait eu l'aplomb de monter en première, en face de l'illustre Herscher, comme il eût été fier de lui dire, une famille française à la main. Vous voyez ce livre? Eh bien, il est de mon grand frère, et je vous réponds qu'on le lit et qu'on en vend. Mais dans son wagon de 3e sonnant le bois, le pauvre cadet, tout débordant d'enthousiasme fraternel, en fut réduit à prendre pour confident 2 coquetiers en blouse grise et une marchande de volailles qu'il écrasait, le submergeait de ses immenses paniers. Autant que le laissait comprendre, le langage abscon s'est tout hérissé des lips du jeune écrivain que ses confrères n'avaient pas surnommé gratuitement Saint-Bollard. Son livre racontait la passion douloureuse, en 400 pages, la rude montée au calvaire d'un trop bon fils, crucifié par sa famille, une famille de ce côté du Détroit, abrutie de toutes les manies, de toutes les imbécilités dont on sait que la France a le monopole. Le garçon, fiancé à une jolie Anglaise, vous voyez l'opposition des deux nationalités, et le « c'est bien français comme c'est français » jaillissant en leitmotiv à chaque page. Le jeune martyr, qui, par hasard, avait les yeux couleur de fleur de lin et les cheveux bouclés en or de Raymond, succombait de douleur et de consomption à la fin du livre, ayant sacrifié au sien son cher amour. « J'y comprends rien !» marmonna la marchande de volailles, à qui le brave cadet, incapable de porter sa joie tout seul, essayait de lire une page de son frère, la plus émue, la moins littéraire surtout. Car souvent, la littérature est un vêtement de fête où l'idée se trouve mal à l'aise, d'un endimanché qui la gêne. Un des coquetiers demanda « C'est votre frère qui a imprimé ce livre-là? Eh ben, au Grand Viarme, chez nous, il aurait du mal à se loger avec un métier pareil. Ça mène trop de bruit, ces fabrications. » En même temps, un artilleur en ribote, le képi sur l'œil, la veste entr'ouverte, se dressait dans le compartiment voisin, écrié, furibond, les yeux désorbités, tendant le poing vers Antonin. Tu sais, toi, mon colon, si ton frère a des manigances avec l'Angleterre, aussi vrai que je m'appelle Schmitt et que je suis brosseur du capiston, on lui fendra la margoulette et à l'Angliche pareillement. Le pauvre cadet, un peu confus de sa tentative, jugea que jamais le peuple, surtout le peuple de campagne, n'entendrait rien aux créations de son grand. C'est à Paris, dans cette atmosphère subtile, toute d'intelligence et de flamme, qu'il faudrait voir les faits. Lui-même avait hâte de se retrouver dans sa chambre de la place des Vosges, en tête-à-tête avec l'œuvre fraternelle que l'agitation du voyage, le contact de compagnons épais et balourds, l'empêchait de bien saisir. Ce soir-là, comme d'habitude à tous ses retours d'Angleterre, les passants de la rue parisienne lui semblèrent bien plus petits que là-bas, et les maisons beaucoup plus hautes, le vacarme et l'agitation de la ville, très fatigants aussi, en comparaison du silence de Londres, pourtant 2 fois plus peuplé et plus grand. Il eût voulu arriver chez sa mère, qu'il n'avait pas prévenue, assez à temps pour fermer le magasin lui-même, dîner en famille et boire à la santé du nouveau romancier. mais le lambinage du fiacre, attelé de bêtes innommables, l'encombrement des voies le mirent définitivement en retard, et deux ou trois fois, il se surprit à dire, dans le dos affaissé de son cocher somnolent, « Est-ce français ? Est-ce assez français ?» Les volets du magasin étaient fermés, excepté celui de la porte où la lampe de l'intérieur mettait un triangle lumineux. Et lorsqu'Antonin se présenta, la maman jetait au vieil ami assis en face d'elle, de l'autre côté du comptoir, le refrain mélancolique de leurs anciennes causeries. « Ah, monsieur Isoard !» À quoi l'autre répondait, encore plus dolent, « Ah, madame de Ligne !» Pour l'entrée du petit, il y eut un élan de joie, une montée de lumière. Mais Tonin voyageait souvent, on était fait à ses départs, à ses retours. Lui seul sentait la chaleur, le bien-être de la famille retrouvée. Tant maman lui serrait bien fort contre son vieux cœur, que Dina, en train de débarrasser la table et le dîner dans le fond, eût sauté au cou de son frère préféré, ce fut pour tous comme s'il n'était jamais parti. Tandis que lui parlait, s'agitait encore dans le mouvement du voyage et les curiosités de l'absence. « Et Raymond, est-il content ? Enfin, n'est-ce pas, le... Voilà son livre. »« Paru depuis 2 jours, » dit la mère vivement, comme pour éviter d'ajouter rien de plus. Dina s'était rejetée dans les fonds, invisible mais bruyante. « Si tu veux voir quelqu'un qui ne l'est pas content, » gronda Pierre Isoard, brusquement dressé sur ses jambes courtes. « Comprends-tu qu'il m'en fendu l'oreille ? À moi ! Oui, mon petit, la session terminée, je prendrai ma retraite. Il y a trop de républicains au palais Bourbon, paraît-il. » La sœur appela du fond. « Ton couvert est mis, ton nain !» Et quand il fut à table, « Si tu savais tout ce qui arrive à ce pauvre homme !» Penchée sur son frère, elle parlait à voix basse en le servant. C'était le jour même, à la questure du corps législatif, que le vieux scénographe avait appris sa prochaine mise à la retraite. Lui, si connu, si aimé de tous, à qui Marc Javel, Gambetta et tant d'autres avaient promis que jamais on ne se priverait de lui, que la République, pas plus que l'Empire, ne licencierait une vieille garde. Il finissait par y croire, et la subite décision des questeurs l'avait écrasé sous le coup. Sans un mot de réclamation, sans une plainte, il était allé prendre son service comme d'habitude, mais les mains tremblantes, les yeux chavirés sous ses épais sourcils, il se levait avant la fin de la séance, disant à son voisin « J'ai besoin d'air, je retourne à Morangis. » D'ordinaire, il ne s'y rendait que pour déjeuner à son Morangis. Le service de la scénographie le tenait à la chambre très tard dans la nuit, et Geneviève restait seule à la campagne avec une vieille domestique. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Aussi, quelle stupeur en arrivant de ne trouver que la vieille servante. « Et mademoiselle ?»« Mais mademoiselle n'est pas là, monsieur. Elle n'est jamais ici à cette heure-ci. »« Bien, je sais, je sais. » Et sans questionner, rien qu'en approuvant, laissant dire, il acquérait la certitude que depuis des mois, Geneviève ne dînait plus, ne couchait plus à Morangis, excepté quelquefois le dimanche, quand elle savait que son père devait venir. Où vivait-elle ? Chez Sophie, sans doute. Ce fut sa première idée, et aussi celle de Madame Edeline, chez qui le pauvre bonhomme était venu s'échouer vers le soir et perdu de trouble et d'épouvante. Depuis 1 heure, il était là devant le comptoir à se rassurer, à se réchauffer avec cette espérance. « Mais ce n'est pas vrai, maman le sait bien !» soupirait, les yeux mouillés, la bouche pleine, Antonin Edeline, dont l'émotion doublait l'appétit. « Voilà longtemps que Geneviève et Sophie ne se voient plus, qu'elles ne sont même plus amies après la rupture d'un projet d'hospice à Calcutta. Sais-tu pourquoi ce changement d'existence, ma petite Dina ? Est-ce vrai ce qu'on dit d'une liaison que la tantine aurait depuis quelques mois ?» Malgré les signes que lui faisait sa sœur, Tonin s'exaltait en parlant. Geneviève, pour lui, était un être sacré, sur qui Raymond seul, peut-être, aurait pu avoir quelques droits. Mais qu'un autre se fût permis cette audace et ce sacrilège d'oser penser à elle, voilà ce que le petit ne comprenait pas, ne permettait pas. Et dans son indignation, comme une fleur emportée sur un torrent, se devinait facilement l'amour timide et profond, l'amour d'enfance qui s'était toujours écarté devant le privilège du frère aîné, sa grâce blonde et svelte. À quoi pensait-il, ce Raymond? Laisser Geneviève faire le bonheur d'un autre? La littérature lui avait donc tourné la tête. Ah oui, la littérature! Petite sœur qui venait de prendre sur le lit, où Tonin l'avait posé en entrant, l'exemplaire de Famille française, le feuilletait d'un doigt méprisant, puis le refermant avec colère. C'est moi qui suis heureuse que mon ami Claudius n'ait jamais eu l'envie d'écrire, qu'il ne se soit occupé des jeunes bandits amis de Raymond que pour baptiser un de leurs brûlots. Entre ses grosses pattes d'ouvrier pleines de calus, Antonin prit la main menue et souple de la petite. Tiens, c'est vrai, mon cendrillonné, et moi qui ne te demande pas de nouvelles. Où est-il? Comment va-t-il? Pas bien, répondit la jeune fille. Il est toujours dans l'engadine. On lui défend de parler et même d'écrire. Il ne sort pas de sa chambre, dont les fenêtres restent ouvertes nuit et jour à l'air glacé. Mais c'est égal, il vivra, j'en suis sûre. J'ai foi dans nos sauvegardes. » Elle montrait, accrochée au mur, à côté du lit où elle couchait avec maman, et au-dessus d'un faisceau de chapelets et de médailles, une statuette dorée de Notre-Dame de Fourvière. « Qu'est-ce qu'elle a? Elle a l'air fêlée, la bonne dame !» demanda Antonin, dirigeant sur l'ex-voto le jet de lumière de la lampe. Dinah rougit jusque dans le cou, mais elle savait bien que le cadet n'y cherchait pas malice, et répondit du ton le plus simple. « C'est hier soir en rentrant. J'ai jeté ma besace sur le lit, dans un mouvement de colère si brusque, j'ai entraîné la madone, les médailles. Un miracle que tout n'ait pas été fracassé. » Tonin, souriant, demanda. « Et pourquoi cette colère? Je croyais que c'était fini. Enfin, n'est-ce pas, que tu ne te fâchais plus jamais ?»« Je fais ce que je peux, mais il y a des moments, je venais de lire un livre qui m'avait indigné. » « Un livre ?» demanda Tonin avec inquiétude. Le vieux Marseillais qui venait de passer derrière le vitrage grasseilla tout près d'eux de sa voix de basse profonde. « Bien drôle tout de même, cette bonne Vierge, assez puissante pour faire vivre un homme sans poumons et qui ne peut pas prévenir un accès de colère chez une petite demoiselle dont la violence est l'unique défaut. Crois-tu, tes Manitou, si tu les avais mises en miettes ?» Vivement, le robuste vieillard étreignit la petite à plein bras et tout bas dans le cou, lui glissa avec une émotion qui l'étouffait. N'empêche que tu es la meilleure des filiettes, et que toi et tes scapulaires, vous en savez plus long peut-être que toute la philosophie de mon maître Proudhon. Il fit signe au jeune frère de prendre son chapeau, et haussant sa voix tremblante qu'il essayait d'affermir. Madame Deligne, le petit me raccompagne. Nous avons des choses à nous dire. Il vous reviendra dans la soirée. » Ayant mis le bras du jeune homme sous le sien, tous deux sortirent par la cour qu'inondait la clarté froide d'une nuit de décembre. Dès leur premier pas sur le quai dans la direction du corps législatif, le vieux père voulut savoir de son compagnon s'il était vrai qu'il fût demeuré l'ami de Sophia en correspondance avec elle, comme l'affirmait Madame Deligne. Antonin répondit sans le moindre trouble. Il avait une amitié vive et encore plus d'admiration pour cette excellente fille qui mettait toute sa science, toute sa fortune au service des petits miséreux du monde entier. Il lui savait gré d'être sorti de la politique de son pays où il n'y avait que de la haine et du sang et de ne plus rechercher que le prosélytisme de la pitié. Tout à coup, aux premières maisons du Quai d'Orsay, sur le trottoir désert et craquant de froid, Pierre Isoard s'arrêta et, debout devant le petit, l'intonation changée, altérée. « Dis-moi ce que tu sais, Tonin, je t'en supplie. Tout ce que tu sais sur ma fille, dis-le-moi, ne crains pas de parler. Car avec mon air tranquille, je suis dans le cas d'en mourir de ne pas savoir. Crois-tu, comme ta mère, que Geneviève se soit remise à sa médecine avec Castin pour pouvoir prendre un jour la surveillance d'un de ses hospices ?» Mais, monsieur Isoard, je ne le crois pas, j'en suis sûr. » Au tremblement des deux mains cramponnées à ses bras et les tenant écartées, comme si le vieux eût voulu lire en lui à poitrine ouverte, Antonin comprit qu'il fallait mentir, qu'il y avait de la vie de ce pauvre homme, peut-être aussi de celle de sa fille, et il mentit. Des lettres de Mademoiselle Sophie lui avaient appris, pendant qu'il était en Angleterre, que Geneviève, après bien des hésitations, était entrée de nouveau et définitivement dans l'œuvre des enfants malades, assistant aux visites, aux consultations du dispensaire et s'attardant tellement au travail, le soir, chez Sophie, que presque toujours, la vieille fille la gardait à coucher. C'est donc ça ! C'est donc ça ! Murmurait le vieux scénographe que chaque phrase d'Antonin soulageait d'une souffrance, d'un poids qu'il écrasait depuis des heures. Des choses qu'il ne comprenait pas devenaient toutes naturelles. Il s'expliquait maintenant pourquoi Filiette lui avait réclamé les 30 000 francs de sa dot et dernièrement encore les 5 000 de la construction remboursés par Antonin. Ces 35 000 francs étaient allés à l'œuvre de Sophie Kassagnosov, car la Russe, bien que très riche, ne refusait jamais l'argent qu'on lui donnait pour ses hôpitaux. Mais enfin, pourquoi Geneviève ne m'a-t-elle rien dit ? Isaure en revenait toujours là machinalement, étonné qu'entre sa fille et lui, deux cœurs tendres, deux esprits, il pût exister des cachotteries aussi prolongées. Pendant des mois, il avait cru son enfant paisiblement endormi sous les ardoises bleues et les hauts platanes de Morangis, et elle veillait dans un faubourg de Paris, devant une auberge sinistre et déserte, brûlant ses jolis yeux jusqu'au matin sur des bouquins de médecine. Vraiment, il aurait du mal à lui pardonner. « Mais, monsieur Isoard, c'était pour ne pas vous chagriner que Tantine... »« Oui, mon petit, mais le coup que j'ai reçu dans l'estomac quand je suis arrivé à Morangis et que je n'ai pas trouvé ma fille... » La grimace de cette vieille, me jetant à la figure que mademoiselle ne dînait jamais là et n'y couchait que rarement, toutes les idées qui m'ont traversé la tête, tout ce que je me suis représenté en une minute, pauvre petite, si elle a voulu épargner son vieux bonhomme, elle peut dire qu'elle n'y a pas réussi. Non, vois-tu, se séparer de son enfant, quand on a toujours vécu à côté d'elle, je veux bien que ce soit dur, mais ne plus savoir ce qu'elle est devenue, pensez à tout ce qu'un joli voyou a pu faire d'elle, avec des phrases poétiques et des moustaches bien cirées. Et si, dans le premier moment, je n'avais pas eu là ta mère et ta sœur pour me rassurer, m'ouvrir les yeux, je sais quelqu'un qui aurait fait un fameux plongeon dans la Seine. » Ils arrivaient devant la chambre comme les 12 coups de minuit sonnaient à Sainte-Clotilde et au ministère de la Guerre, les deux horloges de ce coin de Paris. Quelques voitures de députés stationnaient encore à leur file habituelle de l'autre côté du quai. « Marc Javel est ici, j'aperçois son coupé, » dit le vieux scénographe. « Il doit corriger les épreuves de son discours. Il est toujours de bonne humeur ces soirs-là, bienveillant et inquiet comme un comédien les jours de première. Si tu veux essayer la démarche manquée par ton frère, tu auras peut-être plus de chance. » Antonin se mit à rire. « Plus de chance que l'aîné, lui, le chose, bègue et triste, et mal tourné comme il était là, son chapeau mou, ses vêtements de route. Oh non, il ne verrait pas Marc Javel. Pourquoi faire d'abord ? Maintenant, le tirage au sort ne l'effrayait plus. Du moment que le grand frère gagnait de l'argent avec ses livres, le petit se moquait bien de partir. Même il serait désolé de ne pas faire son service comme tout le monde, et de demander n'importe quelle faveur à ce méchant homme qui avait fait mourir leur père, il ne l'oubliait pas. Ils traversèrent de longs corridors silencieux, des salles surchauffées et lumineuses, où un honorable lisait tout bas, sur les preuves fraîches, un fragment de discours à quelques collègues, où des garçons de bureau somnolaient sur des banquettes rembourrées, dans la lourde chaleur des calorifères. « Tu as lu le roman de ton frère ?» En adressant cette question à Antonin, Pierre Isoard rentrait dans son cabinet de chef de la scénographie et s'approchait d'une table sur laquelle brillait une haute lampe de cuivre. Un feu de bois mourait dans la cheminée. Il le ranima d'une bûche et, sortant d'un tiroir le livre de Raymond, il renouvela sa question au petit. « Je l'ai lu, mais je l'ai mal lu, » répondit Cadet, un peu gêné. « Dina, Nathan n'a pas parlé ?» « Non, monsieur Isoard. »« Tant pis, elle m'eût évité le chagrin de te dire tout ce que j'en pense. Ce livre est une infamie. »« Oh, monsieur Isoard !»« À se demander si ton frère était lucide en l'écrivant. Voyons, viens ici et dis-moi si c'est lui qui est un fou et un méchant ou nous tous qui sommes des monstres. » Brave Tonin, de toutes les infirmités dont la nature l'avait affligé, La pire, celle dont il souffrait le plus cruellement, c'était la bonté, cette bonté étalée dans ses yeux clairs, sa bouche épaisse. Très mauvais psychologue, trop pris par l'existence active pour écouter les menus rouages de son horloge intérieure, il ne se doutait pas de ce que lui coûtait cette faculté de s'émouvoir du chagrin des autres, de vivre leur vie en surcroît de la sienne. En ce moment même, rien qu'à le voir pâlir et tressaillir, et son front s'embuer aux paroles du vieux, on sentait en lui tout un monde d'angoisse et de désolation. Eh oui, ce qu'on allait lui dire, il l'avait deviné, entrevu comme à travers un voile, en parcourant le livre de son frère. Mais que n'eût-il donné pour qu'on ne lui en parlât pas, pour ne pas entendre ces phrases déchirantes ? Tu sais sans doute que c'est son histoire que le jeune homme raconte. Isoard tenait le volume haut levé sous le large abat-jour de la lampe. Son histoire est aussi la nôtre. Mais s'il s'est donné une belle figure de Christ élégant et parfumé, avec shampoing et coups de fer, un Christ martyrisé par sa famille, il faut voir les têtes hideuses qu'il nous prête, à nous tous, ces bourreaux. Figure-toi ce grouillement de bêtes noires, sans forme et sans nom, qu'on trouve sous une pierre plate dans la moisissure des fonds de jardin. C'est nous, c'est la famille. La maman passe encore. Il ne l'accuse que d'idiotie, de tendresse aveugle et ignorante. Elle n'est là que pour faire valoir la mère anglaise qui a 10 enfants éparpillés à tous les coins du monde et qu'elle espère bien ne plus revoir parce que s'ils revenaient vers le logis maternel, c'est qu'ils auraient manqué leur affaire. Mais s'il a épargné sa maman, c'est sur moi que Raymond se rattrape. Antonin essaya une molle défense. « Oh, monsieur Isoard, vous croyez qu'il a osé ?»« S'il a osé ? Et quel autre que le vieux père serait ce ridicule bordelais, médecin matérialiste et proscrit de 52, qui, par reine des Césars, apprend le latin à sa fille dans Suétone et rosse sa femme à coups de matraque pour l'avoir surprise, un soir de mai, sortant du mois de Marie ? Si tu doutes de la ressemblance, lis ce passage où Pierre Isoard est peint en pied. » Il mit le livre ouvert sur le bureau devant Tonin et, pendant que les yeux troubles du petit lisaient ou faisaient semblant de lire, il continua d'une voix enrouée et tremblante. « Elle est tout de même bien extraordinaire, cette jeunesse qui trouve tout simple l'apostasie du 2 décembre et qui affirme que nous, les victimes de ce coupe-gorge, nous ne sommes que des fantoches excessivement ridicules. » « Vous savez, monsieur Isoard, ce qu'on a vu et ce qu'on vous raconte, ce n'est pas du tout pareil. » Les bonnes grosses lèvres de l'électricien protestaient toutes suppliantes. « Oui, les bateaux, les générations, je connais. Jeunes et vieux, on vit à 1000 lieues les uns des autres, c'est convenu. Mais cependant, moi qui adore ma fille, qui ai vécu à genoux devant cet enfant comme devant une madone de dentelle dans l'adoration et le respect, d'autant plus déférent et délicat que de bonheur la maman avait manqué chez nous, m'accuser d'élever Geneviève en matérialiste, on devine ce qu'il y a sous ce gros vilain mot, prétendre que je lui fais lire des vilenies en latin parce qu'elle flatte mes manies de vieille bête politicarde, c'est dur !» Des larmes coulaient sur sa longue barbe. Antonin se retenait pour ne pas pleurer avec lui et murmurait, après un lourd silence, « C'est le roman qui veut cela, mon vieil ami. Je l'ai souvent entendu dire à ces messieurs de la Vorace. Le roman est une, enfin, n'est-ce pas, une déformation de la vie. Il ne faut pas lui demander le chose. » Le Marseillais continuait à feuilleter le roman vériste. « Je pense comme toi, mon petit, mais le romancier, qui est l'historien des petites gens, de ceux qui n'ont pas d'histoire, n'a pas plus que d'autres le droit à l'imposture ni à la méchanceté. Regarde à la page 104 d'une famille française et dis-moi pourquoi Raymond, à qui tu n'as jamais fait que du bien, te découpe dans la peau d'un certain cousin Furbis un masque de bas hypocrite qui fait semblant de bégayer pour chercher ses lâchetés et se donner le temps de mieux mentir. Lis tout haut, tu jugeras de l'effet. » Antonin essaya de répéter à voix haute quelques phrases où son balbutiement était imité. « Je ne peux pas, » dit-il en souriant, mais avec une grosse larme restée au coin de son nez camu, comme de l'eau de pluie dans un creux de roche. Un moment, ils se regardèrent, en essuyant leurs yeux, sans prononcer une parole. À côté, à la scénographie, Un reviseur lisait avec une emphase monotone le discours de Marc Javel, si creux, si blafard, en face de cette page féroce de la vie. Enfin, le Marseillais serra le roman dans son bureau, qu'il referma à double tour, en grondant sous sa barbe blanche. « Troune de l'air ! Si c'est ça qu'ils appellent un roman vériste, c'est une affaire pour empoisonner les braves gens et vous couper le cœur en deux !» Tonin eut un geste héroïque. « Après tout, peu m'importe qu'il se moque de moi si son livre se vend bien et s'il gagne beaucoup d'argent. De l'argent, ce livre-là, pas un centime !» « Mais vous n'y songez pas, monsieur Isoard !» Le petit insistait, preuves en main. Quatre éditions en quatre jours, ce sont des chiffres. Le vieux riait dans sa longue barbe. Les éditions étaient de 100 exemplaires à peine, et toutes encore chez les libraires. Il avait pris ses informations. « Mais alors, comment ça s'arrange-t-il ? D'où lui vient le chose qu'il dépense chez lui, chez maman ?» Les mots qui refusaient de sortir, dans l'émotion, secouaient le brave garçon, le jetaient balbutiant d'un siège à l'autre. Et dans cette crise, envahi par les soupçons de Sophie, il ne put se défendre d'en parler à leur vieille amie, qui ne montra nulle surprise. Lors du procès de Lubniac, la Russe ne lui avait pas caché qu'elle se méfiait de Raymond Eudeline comme du dénonciateur. « Voyons, monsieur Isoard, croyez-vous cela possible, avec son éducation, son intelligence, que mon frère consente à vivre de ce honteux métier ?»« Et mon glace, » dit le vieux tranquillement. « Je pense que c'est un écrivain, celui-là, et un artiste. Tu crois donc que ça préserve de tout l'intelligence ?» Soulevé par l'indignation, le pauvre Antonin donna sur la table un coup de poing dont faillit s'éteindre la haute lampe de cuivre et il cria de toute sa colère « Mauglas n'est pas un fils de Victor Eudeline, monsieur Isoard. » Sans répondre, le Marseillais jeta son pardessus sur son dos. « On étouffe ici. Viens faire quelques pas dehors. » Dans la cour Sully, dont la lune découpait les galeries sombres et désertes, leur causerie s'apaisa, s'approfondit. « Avant tout, mon enfant, ton frère est un orgueilleux. » Et lorsqu'en mourant, votre père lui a solennellement donné ce droit d'aînesse et ce titre de soutien de famille, avec les privilèges dont il demandait à la loi et à nous tous de l'entourer, il ne s'est pas douté qu'il allait pousser cet orgueil au délire. L'aîné a pris son emploi tellement au sérieux qu'il ne t'a pas pardonné de les avoir tous nourris si longtemps et qu'il aurait fait tout au monde, tout, tu m'entends bien, pour faire cesser cette situation humiliante. Caspi! Tu n'es pourtant pas le premier cadet qui ait tenu la place prépondérante dans une maison. Il me semble que Napoléon en a été un fameux soutien de famille et que ses nombreux frères, dont il a fait des rois, ne lui en ont pas voulu d'avoir tenu toute sa vie l'emploi de fils aîné de veuve qu'il n'était pas. À la place de Joseph Bonaparte, Raymond se serait probablement fâché. Maintenant, si tu veux toute ma pensée, celui qui a écrit ce livre odieux, dicté par son orgueil blessé, est capable, sous la même influence mauvaise, de l'autre abomination dont on le soupçonne. » Dans l'ombre de la cour, une plainte étranglée répondit. « Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous croire. » « Moi, maintenant, je crois tout, hélas. » Le vieux Marseillais serrait le bras de l'enfant sous le sien et parlait gravement dans l'air glacé. « J'ai dû te raconter l'histoire de mon ami Lavarande et de ma présentation au club Barbès. Je l'ai tant de fois rabâché, mais tant pis, elle est de circonstance et te frappera comme jamais. J'avais 22 ans, je venais de me marier, fou de trois choses dans le monde, ma femme, la République et mon ami Lavarande. Plus vieux que moi de 10 ans, cet ami, vrai chien dent de faubourg, poussé entre deux pavés de la rue de l'Orion, était un républicain de 1830, romantique comme à l'époque, avec serment sur le poignard, assemblée secrète, symbole mystérieux et signe de reconnaissance. À la maison, on l'adorait. D'une gaieté si vivante, si ingénieuse. Il n'était pas riche parce qu'il travaillait seulement aux heures d'inspiration et aussi qu'il aimait musarder. Pour la fête de Nina, je me rappelle un admirable bouquet d'herbes folles et de fleurs sauvages toutes trempées de rosée qu'il était allé ramasser au bord de la Marne à 5 heures du matin. Tu penses si ma femme lui fit accueil à ces fleurs de l'amitié indigente ? Un jour de mars 48, La Varande me propose de me présenter au club de la Révolution, présidé par Barbès. C'était au Palais Royal, sous les combles, un vaste grenier insuffisamment éclairé, avec un grouillement de têtes et des silhouettes noires gesticulant sur les murs crépis. La Varande entre là comme chez lui. Tous le connaissaient. On lui serre la main, on nous accueille, moi très fier, mais un peu trop jeune, et m'abritant contre mon ami. Barbès arrive, s'installe au fauteuil, tout blanc, avec sa face de vieux lion. La séance est ouverte. Soudain, Esprit Cornat, un de ses assesseurs, se lève et demande le comité secret pour une communication importante. Les simples visiteurs sont priés de se retirer. La salle se vide aux trois quarts. Je veux m'en aller, mais la Varande me retient. Reste donc, ça doit être intéressant, et puisque tu vas être reçu... Les portes fermées, l'assesseur reprend une voix grave. « Citoyens, nous avons un traître parmi nous. Voici son dossier et les preuves. Il porte le numéro 301 à la préfecture et il s'appelle La Varande, Richard La Varande. » Tu peux t'imaginer ma stupeur. Barbès, qui s'est levé, à son tour prononce « La Varande, nous vous savons coupable, mais tout accusé a le droit de se défendre. Le comité vous écoute, défendez-vous. » Le misérable essaya l'impudence. « Je n'accepte pas votre juridiction » criait-il en jetant vers le bureau les morceaux déchirés de sa carte de membre du club. « Ah, Macareu, cette juridiction dont il ne voulait pas, nous la lui avons fait accepter à coups de botte. Mais pour moi, quelle émotion! Longtemps j'ai cru que la misère de ce bandit était jouée, son bouquet de fleurs champêtres une comédie. Je le tenais pour un gredin très fort. Eh bien, non !» Rien qu'un pauvre diable, un passionné délirant, épris d'une petite bourgeoise de son quartier, la femme d'un horloger qui voulait des bijoux, de la toilette. Et pour lui en procurer, il n'avait pas trouvé d'autre moyen. Qui sait si ton frère n'est pas tombé, comme lui, dans les pattes de quelque drôlesse ? Antonin tressaillit à ces dernières paroles, comme au seul de toute l'histoire d'Isoa qui fût parvenue à ses oreilles. « Une femme, c'est vrai, murmura-t-il, il peut y avoir une femme. » « Pauvre petit, te voilà comme moi tantôt à Morangis. Seulement, je me disais, songeant à ma Geneviève, il y a peut-être un homme dans cette aventure, un homme. Est-ce atroce d'en arriver à douter de toutes ses croyances, des plus chères, des plus saintes ? J'ai aimé la République comme une mère, comme une patrie. » Je m'aperçois aujourd'hui que ce n'est qu'une boutique, une société d'exploitation mutuelle, qui vient d'ailleurs de me donner mon compte. Oh, je voyais venir le coup, entouré depuis longtemps de vilains sourires, luttant contre des volontés mauvaises, de sourdes antipathies, pareilles à ces épaves sous-marines, à ces écueils mouvants, qui, par les plus beaux jours, les mers les plus calmes, vous déchirent un navire sous la flottaison. J'y suis, j'ai touché. Et me voilà, encore en pleine force, inutile, au repos, avec, ce qu'il y a de plus triste, toutes mes croyances avariées, toutes mes idées sur la vie et sur les hommes, changées à n'y plus rien comprendre. Ma fille partie, ma place perdue, que va devenir pour moi l'existence ? Les idées des jeunes gens sont à mille lieues des miennes. Les trois quarts du temps, je ne comprends pas un mot de ce que je lis. Partout où je regarde, autour de moi, il fait noir, il fait froid comme dans cette cour. Ah, mon petit Tonin !